Ensemble. Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour. Les combats contre l'homophobie restent malheureusement d'actualité en Europe. En Belgique, la diffusion d'un guide contre l'homophobie dans les écoles et collèges provoque l'indignation de certains parents, de responsables d'établissements et de l'église. Condition bien plus difficile en Russie où, malgré la sévère répression subie l'année dernière, les homosexuels tentent d'organiser leur seconde Gay Pride à la fin de ce mois. Le portrait du jour, celui de l'héritier de l'Empire Agnelli et du groupe Fiat, John Elkann. Dans votre panier à pique-nique, n'oubliez pas votre ordinateur. Reportage sur le Wi-Fi Picnic ou comment entamer une conversation sur l'herbe avec tous vos voisins par écran interposé. Enfin, un tour du monde à vélo pour promouvoir le don du sang auquel il doit d'avoir eu la vie sauve. Récit de Julien Leblay dans notre carnet de voyage. Rarement un livre a autant animé les conseils de classe et passionné la presse belge. Le guide contre l'homophobie, ouvrage de 140 pages, distribué dans 3000 écoles primaires et secondaires par le ministère de l'Éducation francophone. À l'origine de cette initiative, le constat dressé par la ministre belge chargée de l'enseignement obligatoire, Marie Arena, constate un nombre élevé de suicides chez les jeunes homosexuels, un nombre trois fois plus important que chez les hétérosexuels. Seulement voilà, la diffusion de ce guide provoque une belle polémique en Belgique. Reportage de Jessica Jouve.
Dès sa publication, le guide contre l'homophobie a atteint son objectif. Parler de l'homosexualité à l'école afin de briser les préjugés qui y sont souvent associés. Et comme l'on pouvait sans doute s'y attendre, les premiers à réagir ont été les parents d'élèves et les directions de quelques écoles catholiques. André Paquet est professeur à l'Institut des Arts et Métiers de Bruxelles. L'école, dit-il, doit rester le lieu d'apprentissage de règles élémentaires.
Le problème est celui-ci. Est-ce qu'un élève du primaire a déjà une identité sexuelle? Dès lors, est-ce qu'il peut comprendre ce qu'est tout d'abord un homosexuel? Parce que ne comprenant pas ce qu'est un homosexuel, je vois mal comment il pourrait avoir un comportement homophobe. Il est vrai, et le document en fait état, qu'on entend parfois dans les cours de récréation des insultes homophobes, mais est-ce qu'elles sont bien comprises? Je pense que non, et je vois mal pourquoi tout à coup on viendrait parler de l'homosexualité, de l'homophobie, dans des écoles primaires.
Alors que l'affirmation de soi commence dès l'adolescence, évoquer l'homosexualité à l'école pourrait certainement diminuer le malaise et parfois la honte que ressentent les jeunes homosexuels. C'est ce que soutient Valérie Marchat, 17 ans, qui assume depuis peu son homosexualité.
En fait, je me sentais différente parce que je flashais pas sur les mêmes mecs, je craquais sur des garçons très très féminins et puis sur des filles, et donc je comprenais pas trop pourquoi moi ça faisait ça. Et quand j'en parlais à des copines, elles me disaient qu'elles pas du tout. Et donc je me sentais un peu en dehors, quoi, un peu mise à l'écart. Et du coup j'ai eu des expériences, enfin, la première fois que je suis sortie avec un garçon c'était très tard, mais je suis quand même sortie avec un garçon avant de comprendre que j'aimais les filles, pour faire un peu comme tout le monde, quoi, pour pas me sentir exclue. Mais du coup je m'assumais pas, quoi. J'étais renfermée, je restais dans mon coin et j'étais pas du tout à l'aise, quoi. Je disais souvent que j'étais malade pour manquer le plus possible. J'avais souvent, soi-disant le matin, mal au ventre pour pas aller en cours. J'en avais marre chaque jour d'affronter le regard des gens.
Outre des suggestions pédagogiques, ce guide dressait une liste d'homosexuels et de bisexuels célèbres, toujours pour tenter de démontrer qu'il n'y a aucune honte à être homosexuel. Sur cette liste, on retrouve les philosophes grecs Platon et Socrate, ainsi que l'actuel président du Parti socialiste belge, Élodie Rupo. Il figure aussi Mustafa Kemal Atatürk, père fondateur de la Turquie moderne. Historiquement, l'homosexualité de ce dernier n'a cependant jamais été avérée. Et c'est précisément pour cette raison que l'ambassade de Turquie en Belgique a porté plainte, au motif que cette inclusion serait injurieuse pour le peuple turc. L'éditeur s'est donc vu contraint de retirer la liste de l'ouvrage, une preuve de plus pour l'auteur que religion et homosexualité ont toujours des rapports ambigus. Tanguy Pixeren.
La polémique, elle est venue d'abord de milieux catholiques qui se sont sentis un peu froissés par ce qui est écrit à propos des familles, la diversité des familles, etc. C'est vrai que le guide remet en question certains fondements de la société qui n'existent plus vraiment, d'ailleurs. je veux dire, c'est une société un peu idéalisée, parce que ça fait quand même des années qu'on sait que des enfants sont élevés par des couples homo, et que l'homosexualité est reconnue légalement, c'est plus reconnu comme une maladie mentale, ça fait des années que c'est comme ça, mais bon, il y a des gens qui ont encore ce fantasme d'une société où, voilà, tout le monde vivrait en famille, en cellule familiale, papa, maman, les enfants, le chien.
Il n'en reste pas moins que le guide contre l'homophobie semble répondre à une nécessité. En tout cas, si l'on en croit un sondage du ministère belge de la Justice, sondage selon lequel un homosexuel sur trois ne se sent pas en sécurité dans les rues de Bruxelles.
Que dire alors des rues de Moscou, où il ne fait vraiment pas bon s'afficher comme homosexuel? L'année dernière, la première Gay Pride, interdite par le maire de Moscou, avait mal tourné. Plus d'une centaine de personnes interpellées par la police et des dizaines de manifestants agressés par des skinheads, des traditionnalistes de l'église orthodoxe russe et par des groupuscules nationalistes. Ce qui ne dissuade pas la communauté homo de chercher à organiser à tout prix une nouvelle Gay Pride ce 27 mai à Moscou. Virginie Pironon.
Aucune protestation ni menace ne nous arrêtera. Selon un des organisateurs de la parade, l'infatigable Nikolai Alexeyev, si la manifestation est interdite, les représentants de la communauté gay de Russie saisiront une nouvelle fois la Cour européenne des droits de l'homme. Fin janvier, les organisateurs de la première Gay Pride ont déposé une plainte à Strasbourg pour violation du droit au rassemblement pacifique. Un droit, disent-ils, qui leur est normalement assuré par la constitution russe, adoptée en 1993 par Boris Yeltsin. Depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, les gays de Russie dénoncent le recul des libertés fondamentales dans le pays. Ils inscrivent leur lutte dans un mouvement plus large et disent se battre pour la démocratie et les droits de l'homme. Mais cette année encore, le bon déroulement de leur parade paraît compromis. Le maire de Moscou, Yuri Loushkov, a d'ores et déjà confirmé qu'il allait à nouveau l'interdire. Il a même qualifié dans un discours la Gay Pride d'œuvre de Satan. Cette interdiction reflète l'histoire compliquée de l'homosexualité en Russie. Elle a été considérée comme un crime jusqu'en 1993 et comme une maladie mentale jusqu'en 1999. Des représentants de la communauté homosexuelle des États-Unis, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, d'Allemagne, de France et d'Italie ont déjà exprimé leur soutien aux gays de Russie, ce qui fait sortir de ses gonds le patriarche orthodoxe Alexis II. Il s'est récemment dit très mécontent de la publicité qui est faite à l'homosexualité en Europe, en particulier au mariage homosexuel. Il déplore ce qu'il appelle la propagande du péché faite en Occident, ainsi que la perte des valeurs familiales et chrétiennes.
Alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'est-ce qu'on fait ?
L'héritier du clan Agnelli et du groupe Fiat ne porte pas le nom de la dynastie. Il s'appelle John Elkann, il a 31 ans. C'est le petit-fils de Gianni Agnelli, mort en 2003, alors que le groupe de Turin entrait dans une profonde crise. 4 ans plus tard, John Elkann s'apprête, ce 15 mai, à prendre la présidence de l'IFI, la holding qui contrôle les finances du groupe. Portrait signé Laurent Morino.
Timide, élancé, le profil aristocratique, la chevelure romantique, à 31 ans, John Elkann, Jackie pour les intimes, représente la 5e génération d'une dynastie qui a forgé l'histoire de l'Italie depuis maintenant plus d'un siècle, les Agnelli. Un empire, celui du groupe Fiat, qui se transmet, hasard du destin, de grand-père à petit-fils. Le fondateur, dont le fils mourut dans un accident, fut contraint de passer les rênes à son petit-fils, donc Gianni Agnelli, et celui-ci, en 1998, après avoir perdu son neveu, a désigné donc John Elkann pour assurer la continuité. L'héritage est lourd, non seulement parce que John n'était pas nécessairement destiné à ce rôle, mais aussi parce que Fiat, depuis la mort de Gianni Agnelli en 2003, vient de traverser une des plus graves crises de son histoire. Mais apparemment, le soleil semble revenir sur Turin, puisque sous la férule de Sergio Marchionne, l'administrateur délégué, la firme italienne refait du bénéfice, et c'est le moment choisi pour lancer le jeune héritier. Le 15 mai prochain, il va en effet prendre la présidence de l'IFI, la holding du groupe, autrement dit le coffre-fort. Une véritable intronisation, donc, pour les grands tuteurs qui, depuis 4 ans, assurent la régence au sein du groupe, notamment Gianluigi Gabetti et Luca Cordero di Montezemolo, actuel président de Fiat, président aussi de Ferrari et président enfin du patronat italien. John Elkann, toujours très réservé, a été à bonne école donc, un diplôme d'ingénieur à Polytechnique à Turin, un long séjour aux États-Unis, à la General Electric et, surtout, dans le sillage d'un vieil ami du grand-père, un certain Henry Kissinger. Et puis, c'est la tradition chez les Agnelli, un stage aussi à la chaîne dans une usine de montage en Pologne. Depuis 9 ans déjà, John Elkann est au conseil d'administration de Fiat. Il prend à présent les rênes financières du groupe, à quelques mois qui plus est du lancement de la nouvelle Fiat 500 en septembre. La dynastie continue.
Avec l'arrivée des beaux jours en Europe, les citadins retrouvent le chemin des parcs et jardins pour organiser des pique-niques. Dans le panier, pâté, saucisson, vin rouge et ordinateur portable. Et oui, il faut bien ça désormais pour communiquer avec ses voisins de pelouse. Cela s'appelle le Wi-Fi Picnic, contraction de pique-nique, happening et Wi-Fi. Cette technologie sans fil qui permet aux ordinateurs de communiquer entre eux en réseau. Les plus audacieux l'appellent déjà le Web 3.0, la introduction de la dimension locale et humaine dans l'utilisation des nouvelles technologies. Alors pour tout comprendre, écoutez ce reportage de Frédéric Lebel la semaine dernière lors du dernier Wi-Fi Picnic préélectoral dans le jardin du Luxembourg à Paris.
Quand on se réunit à 30 personnes, les 30 personnes ne se parlent jamais ensemble. Quand on va en soirée, on va voir quelqu'un, on parle à 2-3 personnes maximum. Ici, les personnes un peu timides peuvent parler instantanément à 20 personnes, se présenter et commencer à lier contact. C'est en fait un prétexte technologique à plus de proximité humaine.
Et aujourd'hui, vous avez parlé de quoi alors ? Plusieurs personnes me disaient, on a pas mal parlé de présidentiel, mais sans esprit partisan. Vous avez parlé de quoi ?
C'est d'abord une expérimentation technologique, donc on parle aussi un peu technologie. Mais liberté totale à ceux qui viennent. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici qu'on ne connaît pas. Donc ils parlent vraiment de tout et de n'importe quoi.
Bon, il se trouve que la police là est venue parce qu'on n'a pas eu l'autorisation de faire de la musique, par exemple, qu'à 18h pétante, il fallait qu'on arrête, etc. Bon, on s'est permis aussi de dire que peut-être ça n'allait pas s'arranger, que quand même on est dans une relation à l'ordre public qui est peut-être un peu abusive étant donné là le caractère vraiment bienveillant et gratuit et souriant de cette action. Donc ça, c'est parler politique. Hein.
On a parlé de tous les trucs dont on n'a pas le droit de parler sur les antennes, c'est-à-dire les faux sondages, les renseignements généraux, la vie privée des candidats, que les trucs qu'on n'a pas le droit de parler dans les micros.
Et alors, il y a eu pas mal de révélations ?
Ah bah, énormément, ça a été tellurique. C'était tellurique.
Le sujet, c'est rencontrons-nous, parlons, passons un bon moment ensemble. Là, on parle toujours du temps parce qu'on est en plein air. Donc, soit il fait beau, il fait pas beau. C'est aussi un sujet important, soit on a froid ou on a chaud.
Comment vous êtes arrivé là, alors ?
Bah, via l'univers des blogs, tout simplement. J'ai rencontré Sacha et Natacha lors d'une soirée de blogueurs. Et puis voilà, on a échangé nos adresses de blog. Je suis allé jeter un coup d'œil sur ce qu'ils faisaient. Et puis on a sympathisé comme ça, quoi, très simplement.
Et vous, votre blog, c'est quoi ?
Moi, c'est un blog très, très spécialisé sur le long skate, qui est en fait un skateboard, comme vous le voyez, puisqu'il est à mes pieds, qui fait en moyenne 1m15, 1m20.
Et un skater, ça sympathise avec des blogueurs humanistes ?
Bah oui, complètement. Comme je dis, il faut avoir deux jambes vraiment de même taille pour être un bon blogueur, c'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment une jambe avec un pied dans le réel et un autre dans la blogosphère, mais qu'elle soit au même niveau pour qu'on puisse marcher convenablement.
Ça crée un feuilletage de conversation, c'est-à-dire qu'on chatte. Mais en plus, on communique avec son voisin de vive voix, on voit qui envoie les messages. Il y a différents niveaux comme ça d'échange. C'est vraiment du tac au tac, comme une conversation au café avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qui sont bien lunés, quoi. Voilà, ça crée une espèce de bonne humeur. On fait connaissance sur un mode très souriant avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est vraiment un truc de convivialité, je crois. C'est ça qui est drôle au début, il y a toujours un petit moment où on ne sait pas qui est qui, donc on rigole, on suppose, on suppute, donc c'est assez drôle.
Et est-ce que ça donne une communication plus libre ?
Oui, libre et ludique, et où on passe de l'un à l'autre en permanence, ouais. Mais comme un peu dans la vie aujourd'hui, on passe de la vraie vie au chat, à Second Life, au blog, enfin, c'est assez fluide en fait. On passe de plus en plus de l'un à l'autre sans arrêt, quoi.
Techniquement, c'est simple ou c'est compliqué ?
C'est un petit peu compliqué à installer. En fait, il y a l'un des ordinateurs qui est l'émetteur de la bulle Wi-Fi et qui héberge en son sein un serveur dans lequel il y a différents types de services. Un service de chat pour pouvoir parler les uns avec les autres. Un service de transfert de dossiers pour pouvoir s'échanger des documents. Il y a aussi un blog à l'intérieur de la bulle. Et puis un espace wiki pour ceux qui connaissent, qui est un espace que tout le monde peut modifier librement.
Donc on passe pas par Internet en fait, on crée un mini Internet.
c'est ça qui est assez intéressant avec notre idée, c'est qu'on n'est absolument pas lié à Internet. C'est autre chose. On a beau être des geeks et adorer la technologie, on est d'abord des citoyens. Donc la question politique, évidemment, nous traverse.
Oui, ça c'est une chose qu'on a décidé pendant dans les échanges pendant la bulle. On fait un Wi-Fi picnic concurrent de la Garden Party au 14 juillet. Et évidemment, on invite tous les candidats, heureux ou malheureux, à se joindre à nous.
Et on reste dans le domaine de la communication avec le titre du jour d'Accent d'Europe, extrait de Variety, tout nouvel album d'Erita Mitsuko. Catherine Ringer et Fred Chichin, qui après plus de 20 ans de carrière, ont voulu revenir à un style plus sobre et épuré, communiqueur d'amour. Il y a 3 ans, Julien Leblay a commencé un tour du monde à vélo par étapes pour promouvoir le don du sang. C'est en effet grâce à une transfusion que ce jeune homme de 25 ans a survécu à un accident survenu dans son adolescence. Ce tour du monde l'a conduit l'an dernier dans les Balkans, où il a parcouru 5300 km à vélo. Julien Leblay qui revient sur l'origine de ce projet avec Catherine Potet.
L'idée du don du sang est née quand j'avais 16 ans, puisque j'ai eu un grave accident de tracteur. Moi, j'ai fait plusieurs jours de coma pour réparer mes poumons qui avaient explosé. Et donc voilà, j'ai reçu énormément de sang pour rester en vie et c'est la seule manière que j'ai trouvée pour remercier les donneurs d'une part, montrer que 10 ans après on y pense encore, et puis aussi pour montrer à ceux qui donnent pas encore leur sang que c'est un geste qui sauve des vies, qui en sauve 500 000 par an en France, et donc donner son sang est un geste important.
Donc vous avez choisi de militer pour le don du sang, vous voyagez en vélo, pourquoi le vélo ?
Le vélo, c'est l'outil qui m'a permis de me remettre de mon accident. J'ai commencé à l'âge de 17 ans, un an après, pour réhabiliter mes poumons à l'exercice. Et puis, il se trouve que c'est un excellent moyen de transport, de communication, de découverte. Rien de mieux pour découvrir le monde que de voyager à vélo.
Ça vous permet de rencontrer les gens, de prendre le temps de s'arrêter ?
Oui, tout à fait. Plus on voyage loin de nos pays dits occidentaux, plus les gens sont ravis, contents et surpris de voir des voyageurs à vélo comme ça. Et donc, ils viennent facilement à nous devant, nous hébergent, nous accueillent, nous sourient. Donc, ça permet des rencontres très, très riches, très profondes, oui.
Ils doivent être assez admiratifs aussi, j'imagine, de l'effort fourni quand même, des milliers et des milliers de kilomètres à vélo.
Admiratifs peut-être, et surtout souvent très fiers qu'il y ait un étranger français qui vienne dans leur pays juste pour pédaler, pour promouvoir un geste qui est aussi important qu'est le don du sang. Et aussi fiers de pouvoir offrir une douche, un verre, un repas.
Dans les Balkans, vous avez parcouru 5000 kilomètres, en combien de temps ?
C'était 2 mois et demi de voyage, donc ce qui représente à peu près 100 kilomètres par jour. Et bon, faut dire que quand on se lève le matin, quand on voyage à vélo, on n'a qu'une chose à faire dans la journée, c'est pédaler jusqu'à 8 heures le soir. Donc 100 km, ça représente en fait un effort régulier mais peu soutenu dans la journée. Il y a, je veux dire, voyage à vélo, il y a à la portée d'absolument tout le monde. Il y en a qui partent en famille, il y en a qui partent en étant obèses, handicapés ou autres. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là.
Voilà le voyage de Julien Leblay à retrouver sur internet voyage au singulier -grand-coeur.org. Françoise Grelot réalisait Accent d'Europe, mise en onde par Pierre Billot. À demain.